Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous confions au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également en début d'émission la chronique d'Antanac et en fin d'émission la chronique de Vincent Calame, Semence, une histoire politique, partie 4. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'association. Le site de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Notre émission est diffusée depuis 2018 sur les ondes de Radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans aucune personne salariée, mais à bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio a fait face récemment à de gros soucis financiers. Un appel à dons avait été lancé. Nous tenions tout d'abord à vous remercier, car grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre mobilisation, Cause Commune va pouvoir passer la fin d'année avec un peu plus de sérénité. L'objectif initial de 13 000 euros vient d'être tout juste d'être dépassé, donc c'est formidable. Mais l'équipe de la radio a décidé de ne pas s'arrêter là. Je relaye donc un appel de l'équipe. Ce qui nous serait utile, désormais, c'est qu'avant le 31 décembre, on fasse découvrir Cause Commune à un maximum de personnes nouvelles. Est-ce que vous pourriez demander, s'il vous plaît, à trois personnes à qui vous voulez du bien, de visiter le site de Cause Commune, je vous le rappelle, causecommune.fm, et de cliquer sur l'appel au don pour découvrir cette radio associative et citoyenne. Ces trois personnes pourraient ensuite faire un petit don, même de 3, 5 ou 7 euros. L'idée de ce nouvel objectif est d'atteindre les 1000 personnes donatrices avant la fin de l'année. Au jour où on lance ce nouvel appel, vous êtes moins de 200 personnes à avoir permis de récolter la somme initialement demandée. Alors oui, le pari des 1000 personnes est ambitieux, mais on compte sur vous, qui aimez cette radio libre et qui souhaitez la faire grandir. Nous sommes mardi 12 décembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission du jour, Magali Garnero. Salut Mag.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Donc,
comme d'habitude, je vais découvrir le sujet de ta chronique du jour, donc c'est à toi.
Merci beaucoup. Ben, aujourd'hui, j'avais deux sujets. Je ne sais pas si ça va tenir, si ça ne tient pas, je vais improviser, j'en ferai qu'un et je ferai l'autre l'année prochaine. Mais j'avais un premier sujet parce que donc la déferlante sur le numéro de novembre, et en novembre, je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu
Alors, précise, la
parler.
Revue La Déferlante.
La revue féministe La Déferlante. Voilà, la revue qui s'appelle La Revue des Révolutions Féministes, de novembre, a fait un article sur l'intelligence artificielle. Et elle avait mis un titre à cet article-là. Et la question posée par la déferlante m'a d'abord étonnée. Le titre, c'était « Comment rendre l'intelligence artificielle plus inclusive ?» Le terme d'inclusivité, en effet, m'agace, tellement il est dans toutes les bouches, comme à la mode. Et donc, on croirait peut-être que inclure suffirait à être ensemble. Alors, on inclut des différences dans des échanges, on inclut des féminins dans l'écriture, on inclut des personnes dites étrangères, on inclut des personnes dites éloignées du numérique, etc. En fait, bon, je suis pas sûre que ça suffise, mais disons que c'est un maître mot. Admettons-le pour le moment. En tout cas, les trois personnes dans cet article, c'est assez intéressant, proposent leur constat concernant l'intelligence artificielle. Il y a Vanessa Nurock, qui est responsable entre autres de la chaire à l'UNESCO d'éthique du vivant et de l'artificiel, tout un programme. Amélie Cordier, qui est docteure en intelligence artificielle et fondatrice d'une asso à Lyon. Et Doha Abou Eliant, qui est juriste et travaille aussi auprès de l'UNESCO. Et en fait, les trois évoquent les biais de l'intelligence artificielle et remettent en question la soi-disant neutralité des traitements, des calculs et des résultats. Doha Abou Eliant, notamment, donne l'exemple des utilisations de l'intelligence artificielle pour détecter, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, je crois que c'était 2020 ou 21, pour détecter les fraudes aux aides sociales. Aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis, je crois que c'était en 2021, le gouvernement avait été mis en cause sur des pratiques parce que 20 000 familles avaient été accusées, à tort, au moyen d'un paramétrage sous forme d'un profilage ethnique, avec des indicateurs du type avoir une deuxième nationalité ou ne pas parler le néerlandais complètement, couramment, etc. Et donc, il y avait eu vraiment un scandale de ce côté-là. Mais en fait, on s'en étonne, mais ça n'est pas très étonnant, puisque ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont celles que l'intelligence artificielle traite sont des données choisies. D'autres éléments sont évoqués dans cet article, ce dossier de la déferlante. Un peu plus loin, Amélie Cordier indique s'être prêtée à utiliser une application Stable Diffusion, je ne sais pas si je prononce bien. Et voilà les résultats, elle a dit « Tiens, est-ce que tu pourrais me créer un portrait de médecin ?» Et là, c'est un homme, blanc, de 40 ans, qui s'affiche comme c'est bizarre. Non, en fait, ça ne nous étonne pas, c'est ça qui est terrible, c'est que ça ne nous étonne même plus. Puisqu'effectivement, les apprentissages que l'on fait faire aux machines sont des techniques supervisées par des humains. Donc, ce n'est pas la machine qui se crée elle-même son jeu de règles ou de données, mais c'est bien ce qu'on lui fournit, qu'elle est capable ensuite de traiter. Donc, les déséquilibres, les discriminations ne sont que le reflet de celles de la société. Dans le cursus d'intelligence artificielle, par exemple, toutes les trois intervenantes dans cet article notent que peu de fiches, peu de femmes sont là, qui se forment, puis travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et du coup, évidemment, les choix à chaque étape ont un effet sur le produit fini. Elle conclut sur le fait que des outils tels que ChatGPT sont biaisés par leurs fabricants. Exemple sur les réponses proposées dans différentes langues, parce qu'en fait, les contenus ne sont que des contenus traduits de connaissances américaines. Alors, du coup, c'est pas du tout des savoirs en provenance du pays, de la culture ou même de la langue concernée. Et puis, j'ai entendu ailleurs aussi, ça c'est pas dans l'article de la déferlante, mais j'ai entendu qu'il y avait une boîte qui s'appelle RemoTask, qui emploie actuellement 240 000 travailleurs en Inde ou dans des pays d'Afrique pour fournir des données. Évidemment, ils sont tous très très bien payés. Et donc, ils fournissent des données déjà codifiées pour nourrir les machines et leur permettre des requêtes. Mais en fait, la nature des données qui leur est demandée d'ajouter sont celles qui proviennent des États-Unis. Bref, je vois de plus en plus de personnes se satisfaire d'outils dont les algorithmes ne sont pas très transparents, pas très reconnus et pas non plus multisitués, si vous me passez cette expression. Et du coup, comment faire? Moi qui ne suis pas une informaticienne, je me dis que quand il s'agit de préparer une voiture sans conducteur, bon, je trouve ça très bête comme affaire et comme sujet, mais enfin, potentiellement, ça peut ne pas être trop dangereux, lui expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre une voiture, un mur, un piéton, tout ça. Bon, ça peut être codifié de manière assez... Ok, dont acte. Mais quand il s'agit par exemple d'un choix de traitement médical, adapté ou pas à telle personne, là je trouve que c'est un peu plus dangereux que ça soit pas multisitué. Et alors, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle libre? Est-ce que c'est idiot comme question? Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle vraiment féministe? Ou allez, je pousse le bouchon un peu plus loin, une intelligence artificielle queer. Non, je ne suis pas sûr. Bon, voilà, vous me direz, c'est loin des préoccupations directes d'Antanax, certes, puisque les gens sont malheureusement ne se préoccupent pas assez de ces questions-là, parmi les personnes qui viennent nous voir. Mais justement, je me trouve en fait en difficulté sur la capacité à expliquer ce qui, moi, me chagrine, ou la façon de comment est-ce qu'on peut présenter à des personnes qui débarquent, entre guillemets, si vous me passez l'expression, qui débarquent sur le sujet du numérique, de l'informatique. Comment est-ce qu'on parle de ça sans complètement juste faire peur à tout le monde bêtement et en même temps en essayant de comme on essaie de le faire dans l'éducation populaire, d'éduquer à une certaine forme de discernement. Je trouve que c'est un sujet... voilà. Donc ça me paraissait intéressant, cet article-là et cette série de choses dans la revue La Déferlante. J'ai 2 minutes encore ?
Ouais, c'est dans quel numéro précise?
C'est le numéro 12 de novembre 2023.
Pour les personnes qui nous écouteront dans le futur, notamment.
Ouais, exact.
Il est disponible actuellement au kiosque.
Tout à fait, il l'est encore, puisque, oui, trimestriel, normalement, c'est octobre, novembre,
ouais,
décembre,
c'est ça,
je crois.
Trimestriel. Donc, tu as encore 2 minutes, si tu veux, vas-y.
Encore 2 minutes, ouais. C'est vrai. Non, parce que je voulais juste dire un petit mot qui, lui, a un peu plus de sens en lien direct avec Antanax. C'est que ce matin, j'étais à une réunion d'un réseau de Paris qui s'appelle le réseau d'inclusion numérique pour le 18e. Et là, on a rencontré des gens de cybermalveillance.gouv.fr. Ce sont donc des personnes, ils sont au nombre de 20, je ne le savais pas, je pensais qu'ils étaient bien plus nombreux que ça, mais non. Ils sont 20 personnes en tout sur tout le territoire, c'est un organisme, une plateforme qui a été créée en 2017 et qui a pour cible, entre guillemets, des particuliers, des associations, des petites entreprises et des collectivités territoriales. C'est assez intéressant parce que moi, je me suis dit, oulala, ça va être hyper, hyper normatif, ça aussi, dans le qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou bateau, genre, changez bien votre mot de passe, ou n'utilisez pas. Bon, alors, il y a ça, c'est vrai, c'est factuel, il y a tout ça. Mais je trouvais que ce n'était pas si pire dans la façon de présenter aussi d'autres thématiques. Je trouve qu'ils sont, ils ont un peu avancé, ils ont fait des mallettes pédagogiques, ils ont fait des machins, alors certes, uniquement en français, mais bon, c'est déjà bien. Des kits de sensibilisation, des petites fiches, et ils disent assister beaucoup de victimes. Je ne sais plus, il a donné le chiffre, c'était 6 000 victimes qu'ils ont depuis 2017, qu'ils ont assisté, accompagné et aidé à soit retrouver leurs données, leurs informations, etc., soit en tout cas remonter le choc de la... Voilà, je trouve ça intéressant. Le seul truc, c'est que ce qui est bizarre, parmi les 62 membres de cette plateforme, il y a entre autres Google. Ha ha. Ha ha ha. J'ai posé la question, on m'a dit, mais oui, mais c'est obligé, ils font partie de l'écosystème. J'ai pas vu l'April.
Alors, je ne crois pas que nous... On ne peut pas être présent partout.
On peut pas être partout.
Par contre, si c'est la même structure à laquelle je pense, son responsable, c'est Jérôme Notin, sauf erreur, qui est un libriste, en fait.
Oui, tout à fait. Ils ne travaillent qu'avec du libre. Tout leur documentation, voilà. Tout leur truc.
Je l'ai connu dans une autre vie, il y a une vingtaine d'années. Voilà. Okay. Il était récemment, d'ailleurs, il intervenait au salon Open Source Experience, dont on va parler tout à l'heure au Café Libre. Voilà.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'était une chose qui m'a bien intéressé, c'est qu'eux-mêmes ne travaillent qu'avec des logiciels libres et ils en parlent quoi, aussi.
Et donc le site, ça doit être alors, de mémoire cybermalveillance.gouv.fr, mais on mettra les références sur le site de l'émission, sur les sites causecommune.fm et libreavoue.org. Merci Isabelle, et exceptionnellement, tu vas rester avec nous parce que tu vas participer avec nous au Café Libre juste après. Mais en attendant, on va faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous vous convions au Café Libre pour débattre avec nous autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. En attendant, nous allons écouter You Wanna Dance On My Songs par Caliman. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
écouté You Wanna Dance on My Songs par Caliman, disponible sous licence libre GNU GPL. Non, j'étais surpris parce qu'en fait, c'est assez rare qu'on ait cette licence et pourtant c'est moi qui l'ai noté. Donc je me surprends tout seul avec mes notes, excusez-moi. Voilà, nous allons passer au sujet suivant.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Alors, c'est un sujet taillé pour le direct, donc si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou soit sur le site de l'émission libreavoue.org. Nous vous confions en effet la... Nous vous souhaitons plutôt la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Donc un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, ici d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et de débattre de sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Alors je les laisserai se présenter, mais je vais juste faire le tour de table. Donc en face de moi, à gauche, Emmanuel Charpentier. Salut Manu.
Alors écharpe aussi, salut Fred.
Ok. En face de moi, donc Florence Chabanois.
Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
Et à ma droite, eh ben Isabelle Carrère qui est restée.
Et voilà, je suis là.
Donc eh ben, on va faire juste un petit tour de table rapide de présentation, parce qu'en fait Isabelle t'intervient souvent, mais on n'a jamais fait vraiment de présentation formelle. Donc Isabelle Carrère, en quelques mots.
Oh là là, mais je sais pas.
Ou sinon, tu dis juste Antanac.
Oui, voilà, je vais dire juste ça.
Donc, association Antanac, qui sont nos voisines voilà. Au 18 rue Bernard Dimet.
Bernard Dimet, voilà. Et qui travaillent sur tout des tas de sujets autour du numérique.
Et c'est Antanac avec un K.com, je le dis notamment oui. Pour Magali, qui a fait un poète sur Mastodon avec un Antanac avec un C. Donc, oh c'est avec un K à la fin. Florence Chabanois.
Oui, alors en un mot, c'est ça.
Toi, tu as droit de plus.
Donc, moi, je suis actuellement Head of Engineering chez Scaleway. Et sinon, j'ai aussi fondé l'association La Place des Grenouilles, qui est une asso féministe. Et je fais partie des Duchesses, qui est une association de femmes dans l'informatique.
Alors, Head of Engineering, c'est responsable de l'ingénierie, on va dire, en français.
Oui, pardon.
Non, mais il n'y a pas de souci. Hein,
c'est tête de l'ingénieur, c'est ça.
Ouais, c'est pour ça que je dis responsable plutôt que tête. Manu, Écharpe, je ne sais pas comment tu t'appelles.
Bah, Écharpe.
Écharpe, ok, vas-y.
Un peu mon pseudo, donc effectivement, développeur, Java, Ruby on Rails, et je m'occupe de l'agenda du libre. Donc, je suis développeur mainteneur et je fais la revue de presse de l'April toutes les semaines.
Voilà, exactement. Alors, on va aborder un certain nombre de sujets. On ne sait pas si on va pouvoir tous les aborder. Et comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de réagir à tous les sujets. Mais tout d'abord, j'en ai parlé dans le sujet d'avant. On a Open Source Experience, donc le salon professionnel qui vient de se tenir en fait à Paris, donc au Palais des Congrès, les 6 et 7 décembre 2023. Donc, rappelez juste ce que c'est qu'Open Source Experience, et on va dire que c'est le salon professionnel autour du logiciel libre, même s'il s'appelle Open Source, on va pas revenir sur la différence là, ou peut-être que vous le ferez, mais en tout cas, c'est pas le sujet, qui réunit à la fois un espace exposant professionnel, et puis un village associatif, sachant que les associations ne payent pas pour avoir accès à cet espace, et ça, c'est historique, hein, depuis le premier salon pro à Paris, qui était en 1999, hein, donc ça commence à remonter, et puis il y a des conférences, avec un format à la fois de quelques plénières, et puis un format assez court, hein, 20 minutes dont questions incluses, donc en général c'est 15 minutes plus 5 minutes de questions-réponses. Donc j'ai envie de vous demander un petit peu pour les personnes qui étaient un petit peu votre retour sur Open Source Experience, peut-être les confs que vous avez vus et que vous avez envie de mettre en avant. Alors comme on va commencer par Florence peut-être.
Yes, moi j'ai beaucoup aimé celle de Louis Dérac, que je ne connaissais pas, et du coup j'ai découvert pendant la conférence. Ça s'appelait « Le logiciel libre suffit-il à rendre le numérique acceptable ?» C'est le genre de conf où on a juste envie d'arrêter l'informatique en fait, dans le sens où typiquement dans son intro il disait, un exemple c'était « Rassurez-vous, cette mine sert à fabriquer des serveurs sur Debian ». Et du coup, c'est le côté à quoi sert le numérique. Et pour lui, le numérique soutenable, c'est déjà un oxymore dans le sens où on peut pas faire du numérique avec tout ce que ça implique en termes de ressources sociales, humaines, de matériaux, et dire qu'on fait de la soutenabilité et de l'écologie. Et du coup, il a introduit le concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'alternumérisme radical.
Je crois que c'est plus ou moins lui qui a créé ce terme, ou
ah ouais,
peut-être qu'il s'est inspiré de quelqu'un, mais effectivement.
Ça marche, ça commence à marcher.
Ça commence à marcher, okay.
Si on le répète encore et encore. dans le sens où on peut promouvoir le logiciel libre pour fournir des ressources au plus grand nombre et permettre la liberté, l'autonomie des gens. Mais à quoi ça sert? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où le numérique est perçu comme la solution à tout? Et là où il introduit son concept-là, c'est l'intention en tout cas d'arrêter de vouloir tout numériser. Les grands projets de numérisation, de tout ce qui est administration, entreprise, comme si c'était forcément mieux et supérieur, c'est quelque chose qui challenge beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé, les slides sont libres, donc je vous invite à regarder.
Alors, j'ai aussi assisté à cette présentation, donc qui était dans la thématique numérique responsable. Et lui, donc, il parle plutôt de numérique acceptable. Et, je crois aussi qu'il a fait référence à la notion de techno-discernement cher à Agnès Crépet de Fairphone. Ouais. Et donc, on a mis sur les pages de l'émission, donc sur causecommune.fm et sur libreavoue.org, à la fois le diaporama qu'il a fait, et puis je crois aussi un lien vers un article où justement il détaille un petit peu ses positions. Et si je me souviens bien, c'est ses deux mémoires, il a annoncé qu'en début janvier, il allait avoir un sort de webinaire sur lequel on pourrait... il allait représenter effectivement ce qu'il a présenté, il pourrait y avoir des réactions. Manu, toi, tu as assisté à cette présentation ou pas?
Du tout.
Du tout.
Non, mais par contre, j'ai adoré, et je suis tombé dessus plus ou moins par hasard. C'était un peu court, mais la vérité sur la blockchain de Pablo...
Attends. Oui, je sais que t'as envie de parler de ça, mais finissons déjà sur... oui. Bon, toi, Isa, t'étais pas présente,
non,
je crois, à ce salon.
Non.
D'accord.
Non,
toi, tu vas pas trop à ces salons, si je me souviens bien.
Non, pas trop. J'en avais parlé la dernière fois, je crois que pas énormément. J'ai pas assez de temps et... Ouais.
D'accord. Bon, en tout cas, effectivement, le diaporama est en ligne. Par contre, les conférences n'ont pas été enregistrées. Donc, je crois que par rapport aux années précédentes. Alors, peut-être que Marie-Odile va me confirmer, parce qu'elle est sur le salon web, là, et comme elle fait des transcriptions. Marie-Odile, si tu m'écoutes, est-ce que les conférences l'an dernier étaient enregistrées? Parce que cette année, on n'a pas vu de caméra. Ce qui serait un petit peu dommage pour pouvoir, effectivement, les revoir, quoi. Donc, toi, tu voulais parler de la blockchain, c'est ça?
Bah oui. Super conférence sur la vérité de la blockchain et qui essaye de mettre un petit peu à plat avec un gars qui semble s'y connaître, qui se présente comme cryptologue et qui explique que...
Attends. Et c'est qui a fait la présentation? Parce que un gars qui semble s'y connaître.
Pablo Rosi.
Oui, alors on va quand même préciser, parce que c'est pas juste un gars qui semble s'y connaître. Je sais pas s'il s'y connaît à fond, mais Pablo Rosi est donc enseignant-chercheur à l'université Paris 8. C'est le responsable de la licence. Alors, je crois que c'est vidéoludisme, si je me souviens bien, et on l'a reçu dans l'émission pour parler justement de cette licence avec Anna Papa. Je sais plus quand c'est, mais en tout cas, c'est sur libreavoue.org. Donc voilà, c'est effectivement, il fait souvent cette présentation. Alors moi, je l'ai jamais vu pour l'instant. Sur son site, il y a les diaporamas. Pareil, les références sont sur le site de libreavoue.org.
Et donc, c'est quoi ça? Il a fait la même présentation, mais par contre, format d'une heure et demie, deux heures. Donc, c'est un petit peu plus conséquent sur son site. Mais ça reste tout autant intéressant. C'est juste qu'il va un peu plus dans les détails.
J'ai pas compris. À Open Source Experience, c'était 20 minutes ou...
Voilà, c'était 20 minutes. Open Source Experience. Sur son site, sur son blog, il a la même présentation en beaucoup plus long, donc dans un autre lieu, où il représente les mêmes données, les mêmes informations, les mêmes idées de base que la blockchain. Voilà, c'est du buzz. La blockchain, c'est une invention qui paraît très intéressante, qu'on nous a vendue et survendue, mais comme toutes les inventions qu'on a depuis déjà un bon moment, on se rend compte un peu que c'est du vent, qu'on a réinventé des choses déjà existantes et qu'au final, c'est surtout quelque chose qui porte une idéologie libertarienne. Et donc, Pablo, lui, ça a l'air d'être plutôt un gauchiste, hein, mais les gauchistes, il y en a des biens, donc il attaque un peu l'idéologie qu'il y a derrière.
Alors, il est de mémoire, mais l'ONUGEM qui est sur le salon me corrigera si je dis une erreur. Il est de l'Union communiste libertaire, pour être très précis.
Et combine, tu veux dire.
Pardon?
Tu veux dire qu'il combine communiste et libertaire, c'est pas mal.
Je ne sais pas, je crois que ça s'appelle l'Union communiste libertaire, mais Étienne va me confirmer si c'est une erreur de ma part. Donc, par exemple, Marie-Odile, lui, me dit qu'il y avait des vidéos l'an dernier, effectivement, d'Open Source Experience, et il n'y en a pas malheureusement cette année. Et Étienne me confirme que c'est effectivement l'Union communiste libertaire. Et il y a une question donc de Magali, est-ce que la blockchain c'est comme les NFT? Donc
on peut dire rapidement, hein, mais les NFT sont basés sur les principes techniques de la blockchain, mais les NFT c'est encore plus du vent.
Alors c'est quoi une
NFT? C'est on te vend en quelque sorte un pointeur sur quelque chose qui est sur Internet. Ce pointeur est enregistré dans une blockchain, donc une chaîne en bloc, on pourrait essayer de traduire. Et les blockchains, il y en a autant qu'on veut, hein, on peut en faire des milliers, des milliards, il n'y a pas de souci. C'est juste un élément technique. électronique. Et donc, un NFT, c'est une sorte de jeton où on vous dit oui, vous possédez ce jeton qu'on va enregistrer dans cette blockchain et vous l'avez acheté. Donc, c'est à vous. Maintenant, personne d'autre peut vous le prendre. C'est juste que la blockchain sur laquelle ça a été enregistré, c'est du vent. Le jeton sur lequel qu'on a obtenu, c'est du vent. Et ce sur quoi ça pointe, c'est aussi du vent. Mais ça a fait beaucoup jaser et surtout, ça a fait beaucoup d'investissements. C'était presque drôle. C'est juste que je pense qu'il y a pas mal de victimes du système. On va en entendre parler. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de victimes qui vont se révéler parce qu'on se rend compte que c'est vraiment du rien du tout. Juste des octets qui pointent vers d'autres octets. À un moment donné, ça ne dépend qu'une sorte de confiance. Comme la blockchain, hein, le Bitcoin, ce n'est que de la confiance. Mais justement, c'est ça qu'il met en avant, c'est que les systèmes de blockchain sont faits pour se passer de la confiance. Donc, il y a une sorte d'oxymore à la base de cette idée. Donc, mais plutôt pas mal. Honnêtement, c'est à creuser. Moi, j'encourage à aller regarder la vidéo, même si elle est un peu longue, d'une heure et demie. Le gars est pas mal.
Ok. Donc, Pablo Rosi. Encore une fois, les références sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Parce qu'on va citer plein de choses aujourd'hui. Donc, ne notez pas les liens. Simplement libreavoue.org, le site de l'émission, ou sur causecommune.fm, la page de l'émission. Sur NFT blockchain, est-ce que Florence ou Isabelle voulaient y réagir? Parce que sinon, j'ai une autre question sur Open Source Experience.
Non, vas-y.
Non?
Ouais, c'est de la merde.
Vous avez pas investi?
Non, attends. Manu, on est à la radio, donc on parle pas les uns sur les autres, parce que sinon les gens, ils ne comprendront rien. D'accord? Voilà, je précise. Alors là, j'ai une question, mais qui va aussi peut-être concerner, peut-être que Magali va vouloir intervenir, parce que Magali était quand même très présente sur le salon. Donc aujourd'hui, Magali est en régie. Bon, ok, je vais l'appeler Bouquinette, vu que visiblement tout le monde souhaite l'appeler Bouquinette, mais bon. Sur l'espace associatif. J'ai deux questions. On va commencer par l'espace associatif. C'était un peu dans un sort de couloir que les associations avaient été reléguées beaucoup moins grand que l'an dernier, non? Est-ce que c'était quand même sympa dans l'espace associatif? Magali.
Alors moi j'ai trouvé ça super sympa parce que le petit couloir quand on arrivait par l'escalator, c'était tout de suite à droite, il y avait marqué village associatif, on le trouvait mais tout de suite. Voire limite les gens ils venaient prendre une bouffée d'air et puis ensuite ils allaient travailler sur le salon. Donc voilà, c'est pas beaucoup plus petit que les années précédentes, hein. On a toujours que 18 stands au lieu de 15 quand même, donc ça sert de faire un peu de pressing. Et là on était à 23 associations dessus, donc on était peut-être un peu nombreux, mais l'espace était extraordinaire.
D'accord. Alors ma deuxième question qui est collective pour les personnes qui étaient au salon, j'étais donc pas mal dans la thématique numérique responsable. J'ai discuté notamment avec une personne qui faisait du design éthique, une femme, et qui me disait ce salon est effrayant par le public présent. Je vois Florence qui sourit déjà. Et effectivement, c'est un salon qui est quand même, je vous demandais de réagir là-dessus, qui est quand même très très masculin. Alors les gens vieillissent de plus en plus, hein, clairement, parce que quand je faisais référence au premier salon en 1999, alors moi y compris, hein, aujourd'hui j'ai 53 ans, mais c'est quand même un salon très masculin et je me demande où est la relève entre guillemets, où est le renouvellement à la fois en termes d'âge, en termes de genre. Je sais pas si vous avez une réaction là-dessus sur les personnes qui étaient présentes, peut-être Florence.
Moi, je connaissais de nom le salon.
C'était ta première Express. Visite.
C'était ma deuxième.
Deuxième, ok.
Et je sais que je vois souvent passer les CFP dessus.
Des appels à conférences.
Pardon, des appels à conférences. Donc pour qu'on on propose des sujets. Et moi, jamais, au grand jamais, ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire un brouillon, alors que je le fais facilement sur d'autres conférences. Et je pense qu'il y a déjà l'image open source. Donc j'ai toujours pas fait en vrai, mais en tout cas par contre j'ai passé une première porte, c'est y aller. Et je trouve qu'il y a des conférences bien pires, ce qui est pas un bon argument, hein, mais je m'attendais vraiment à pire. Après du coup ça dépend de ce à quoi on s'attend, j'imagine, et aussi par les conférences qui ont été proposées. Il y a quand même un signal qui est envoyé pour dire qu'il y aura un peu peut-être de la diversité. Donc je mettrais 11 sur 20 quand même.
D'accord. Alors, précisons que dans le thème numérique responsable, les personnes en charge du thème ont fait le travail nécessaire pour qu'il y ait égalité en termes de genre, etc. Alors qu'initialement, dans les réponses que ces personnes avaient reçues, c'était principalement des soumissions d'hommes. Magali, sur la partie village associatif ou même village exposant pro, est-ce que tu as noté quelque chose par rapport à ça?
Alors, sur le village associatif, il y a quand même un peu plus de filles qu'il y a quelques années. Donc, je suis plus toute seule. Et puis après, j'ai eu la chance de faire partie du pôle track leader, enfin, des track leaders de politique, gouvernance. Et je sais qu'on était quand même beaucoup de filles dans ce pôle-là. Donc, je trouve qu'il y a un effort qui a été mis dans cette édition-là, qu'il n'y avait pas avant. Et effectivement, c'est dur d'avoir des propositions de femmes. Donc, elles sont toutes étudiées. Et, Et quand c'est vrai que je dirais pas qu'on donne la parole aux femmes exprès parce que c'est des femmes, parce que c'est pas le cas. Si c'est nul, bah c'est nul, point. On leur demande de refaire une proposition l'année prochaine en mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se pousse au portillon, quoi. Donc, bah, n'hésitez pas, les filles, à proposer des conférences. Ça sera forcément mieux que la plupart de celles qu'on entend.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le ce parti salon? Est-ce que le vieux geek barbu comme moi qui est en face, donc Echard, peut rajouter quelque chose ou...
Bah, pas grand chose de spécial, hein. Okay. C'est des salons habituels, beaucoup d'hommes, bah oui, mais comme dans les environnements techniques, quand je vais dans des soirées Java ou des soirées Ruby, bah c'est pire, hein. Il y a encore plus d'hommes, les femmes sont là en organisation, ce sont des gens qui sont venus pour regarder ce qu'il y avait de la lumière, hein. Et c'est très très macho comme environnement, on sent la testostérone, hein.
Alors, on dit que tu devrais te rapprocher un peu de ton micro quand tu parles. C'est la régie qui me dit ça, voilà. Mais bon, je précise. Bon, écoutez, on va changer de sujet. Alors, deuxième sujet, bah là, ça va être... bah justement, en fait, pour la diversité, ça va être important. Donc ça, je crois que c'est Florence qui a proposé qu'on parle de ça. Je ne sais plus.
Je croyais que c'était toi.
Peut-être moi, d'ailleurs, j'en sais rien.
On a tous proposé, c'est trop bien.
C'est vrai que c'est toi qui as proposé la deuxième, dont on va parler. Oui, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc l'idée, c'est là, on va parler un petit peu d'un livre illustré qui vient de paraître, donc qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on prononce la deuxième partie, c'est Ada et Zangeman, ou Ada et Zangeman, je ne sais pas, un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise. Donc ça a été écrit par Matthias Kirchner, qui est le président de la Free Software Foundation Europe, donc la fondation pour le logiciel libre en Europe, et qui est mise en dessin par Sandara Brandstatter. Donc il fait 60 pages, je crois, un truc. Oui. 56 pages. Tarif de 15 €, sachant que ce livre illustré est sous licence libre, donc la version PDF est en ligne. Mais là, on a une version papier pour 15 €, donc on peut commander chez l'éditeur. Pareil, les références sont sur libreavoue.org. Donc, qui l'a lu, en fait? Parce que je voulais envoyer à l'avance. Donc, Florence l'a lu.
Oui, moi aussi.
Ok, eh ben, écoutez, on va commencer. Qui veut commencer? Isabelle, peut-être, parce que sur le panel de l'expérience, on va beaucoup parler.
Donc... Ben non, parce que sur le salon, voilà, c'est
que
pas
tu ça,
mais alors là.
Illustré.
Ah, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très sympathique. Je regrettais, j'en parlais avant l'émission, là, je regrettais qu'il n'y ait pas un endroit dans le PDF et peut-être pas non plus dans le livre-là sur, pour que, je sais pas, des parents qui liraient ça à leurs enfants puissent dire mais pourquoi Ada, qu'est-ce que c'est ce nom, qu'est-ce que ça représente, c'est dommage que ça soit pas dit, voilà. Pareil pour Zangeman, mais moi ce que je crois que j'ai préféré c'est la glace à la framboise. Parce qu'en fait, ce que je trouve génial là, c'est la façon très très intelligente de présenter le fait que c'est nul à chier qu'il y ait quelqu'un qui décide pour nous qu'il y aura une seule chose. Puis là, c'est le parfum du jour. En fait, on va pas tout dévoiler de l'histoire, j'imagine, mais quand même, il y a une affaire dans laquelle, donc, il est dit, il y a quelqu'un, un grand chef, un grand maître, qui décide que, voilà, la glace doit, aujourd'hui, c'est le goût à la framboise. Point. Il y aura rien d'autre. Il y a pas vanille, il y a pas praline, il y a rien du tout. Et bon, ben voilà, ça, c'est, je trouve que c'est futé comme façon de présenter le fait qu'il est super important d'arrêter la concentration des pouvoirs et d'arrêter le fait qu'il n'y ait pas un choix.
Il va falloir que tu nous expliques Ada, quand même. Parce qu'il y a plein d'auditeurs, je pense, ils doivent pas savoir à quoi tu te références.
Non, moi j'ai parlé de la glace à la framboise. C'est à toi.
C'est toi, tu as commencé pour Ada.
Mais oui.
C'est à toi.
Parce que c'est intéressant. Ada, bah, c'est le nom d'un langage de programmation. Ah, n'est-ce pas?
Mais bien sûr.
Mais surtout,
c'est le prénom de quelqu'un.
Voilà, c'est exactement. Donc, Loveless ou Lady Byron. Donc, la première programmeuse, ou en tout cas, qu'on considère comme telle. Et donc, une femme exceptionnelle, dont on attend des films et des œuvres un peu plus fortes que, il y a quelques biographies qui sont sorties déjà.
Oui, il y a quand même des choses.
C'est quand même intéressant. Et puis, on rappelle, hein, ben voilà, les premiers programmeurs sont des programmeuses. Et c'est vrai aussi de l'époque moderne. C'est-à-dire que Seconde Guerre mondiale, début de la programmation dans les années 60, c'était avant tout des femmes qui étaient là. Et donc, ça s'est transformé avec le temps, mais il y avait quand même une origine intéressante.
Je suis pas sûr que ça soit avec le temps que ça soit transformé. Hein.
Avec
je pense
l'argent,
que c'est plutôt parce qu'on s'est rendu compte soudainement qu'il y avait un pouvoir là, qu'on pouvait pas laisser aux femmes ce pouvoir-là. Mmh. Et par contre, la vraie question, elle serait si on avait laissé l'informatique plus aux mains des femmes, où est-ce qu'on en serait là maintenant? Ben, je sais pas dire ça. Je sais pas dire. Et je pense pas qu'on en serait juste à trouver une petite place pour les hommes. Je crois pas. Mais je veux dire, qu'est-ce que serait devenu? Est-ce qu'on aurait une société à ce point encline à tout numériser, tout informatiser? Je suis pas sûr.
Alors juste petite précision sur Ada Lovelace, sur libreavoue.org, vous pouvez rechercher, on a consacré une émission à la biographie écrite par Catherine Dufour, c'était 3-4 ans, je me souviens plus du titre de la biographie, mais en tout cas, écoutez-la et lisez Catherine Dufour, parce que c'est une autrice formidable. Et concernant le sujet que vous venez d'aborder, je conseille la lecture notamment d'Isabelle Collet. Alors il y a Les Oubliés du numérique, et elle a écrit pas mal d'articles, et je crois que d'ailleurs à l'Open Source Experience, l'an dernier, elle est intervenue, et c'est possible que ce soit filmé. Donc vous cherchez Isabelle Collet, qui est donc une informaticienne sociologue et spécialiste des questions de genre à l'université de Genève, je crois bien. Donc voilà, c'est Les Oubliés du numérique, et puis sinon les vidéos d'Isabelle Collet. Ah bah c'est toi qui as mon exemplaire d'Ada, je le cherchais. Florence, qu'est-ce que tu as pensé du livre illustré? Non, c'est toi. Okay,
moi j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Donc il a, je vais tenir le livre, il a des imperfections, mais le côté l'informatique... Aujourd'hui, c'est quand même avoir du pouvoir de gérer la partie matérielle, mais aussi software, parce que du coup, c'est ça qui va influencer la vie de chacun et chacune. Je trouvais que c'était un message qui était assez bien transmis. Le côté, on n'est pas obligé de subir les décisions des personnes qui sont sur des modèles propriétaires et de pas avoir d'influence dessus. J'ai bien aimé que ce soit une fille qui soit l'héroïne. Après, effectivement, bon, ça traite un sujet, surtout ce qui est inclusion, le terme que tu n'aimes pas trop, Isabelle. mais ouais, effectivement, on ne parle pas des handicaps ou d'orientation sexuelle, mais en même temps, c'est une première étape. Disons que l'idée, c'est quand même qu'on puisse l'enrichir. Et je trouve qu'il a le mérite d'exister. Et surtout, pour expliquer le logiciel libre aux enfants, je trouve que c'est plutôt réussi, pour le coup. Enfin, le message, quand c'est gratuit, en fait, c'est vous qui êtes le produit. Il est quand même aussi assez un peu transmis. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie.
Alors, je vais vous faire réagir sur pas mal de personnes qui ont commenté ce livre. Alors, d'ailleurs, je vais citer une partie de la vie d'Isabelle Collet dont je viens juste de parler. Alors, la force de ce livre, c'est de proposer une vraie histoire qu'on a envie de découvrir et pas juste une histoire prétexte à un message d'orientation scolaire ou professionnelle. Et cette histoire se démarque de beaucoup de récits de ce type. Pour une fois, on n'a pas une fille seule contre tous qui se bat pour réussir son rêve, mais une fille bien entourée par un groupe de copains et copines qui construisent avec elle un monde nouveau. Non seulement ce livre met en valeur une fille ingénieuse et passionnée de technique, mais également un groupe de jeunes qui, à sa suite, se réapproprient la technique pour la partager avec la cité. Alors ça, c'était la vie d'Isabelle Collet, et puis la vie d'un informaticien, donc Stéphane Bortzmeyer, qu'on a également reçu dans l'émission. Je crois qu'on va finir par avoir reçu tout le monde, en fait, ici. Libre à vous. Alors lui, il a bien aimé, mais il met un petit bémol. Donc je vais vous lire le bémol, je vous demande ce que vous en pensez. Il dit « Je n'ai par contre pas aimé le fait que, à part pour les glaces à la framboise, les logiciels ne soient utilisés que pour occuper l'espace public sans tenir compte des autres. Zangeman programme les planches à roulettes connectées pour ne pas rouler sur le trottoir et donc respecter les piétons. Ada écrit du logiciel qui permet aux planchistes d'occuper le trottoir et de renverser les personnes âgées et les personnes handicapées. L'espace public est normalement en commun qui devrait être géré de manière collective et pas approprié par les valides qui maîtrisent la programmation. Un problème analogue se pose avec les enceintes connectées où la modification logicielle va permettre de saturer l'espace sonore, un comportement très macho alors que le livre est censé être féministe, et de casser les oreilles des autres. Remarquez, cela illustre bien le point principal du livre, qui contrôle le logiciel, contrôle le monde. » Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ou pas du tout?
Ouais, moi je partagerais ça en effet, mais comme le disait fort justement Florence tout à l'heure, c'est déjà ça, c'est un début. C'est-à-dire que oui, c'est pas parfait, et ça fait partie des choses qu'on peut lui reprocher effectivement. Mais comme on pourrait reprocher d'autres choses sur la façon dont ce groupe d'enfants d'abord, petit à petit des adultes viennent. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont effectivement pas suffisantes, mais il est déjà là quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord. Il y a ça qui est une problématique.
Manu, Florence ou pas obligé, hein.
Moi, j'aime beaucoup son commentaire, en tout cas.
D'accord.
parce que du coup, il met l'emphase sur effectivement des problématiques qui sont réelles et dont la plupart des personnes, une moitié de population moins, encore plus, n'a pas forcément conscience, le côté espace partagé, que ce soit sonore ou public. Et du coup, je trouve ça très cool que Stéphane le dise et le souligne. Et je pense aussi qu'il y a le côté virilisme qui est plutôt encouragé chez les enfants. C'est marrant d'aller bousculer les gens et c'est mieux. C'est plus prestigieux d'embêter les autres quand on est enfant que d'être juste sage. Et du coup, ce livre surfe un peu sur cette vague. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut faire son succès, dans le sens où les enfants vont malheureusement peut-être l'apprécier, ce côté coquin.
Alors on précise qu'une possibilité de faire connaître ce livre, c'est au-delà de la famille et des amis, c'est dans des écoles. Je précise aussi qu'il y a beaucoup de textes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est un illustré, effectivement, il y a des dessins, mais il y a quand même beaucoup de textes. Donc, par rapport aux âges des enfants, et comme c'est 56 pages, c'est pas forcément dès le premier âge. Voilà, il faut peut-être un accompagnement ou une lecture commune avec un parent, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Oui, Manu,
tu veux... Moi, je pense que c'est pas un conte pour enfants. Je pense que c'est un conte tout court et qui s'adresse très bien aux adultes et qui l'aborde. Il permet d'aborder des problématiques, la mairie, les choix de vie en société. Il y a des choix bien plus élevés et même le fait d'être bloqué avec un fournisseur de technique, donc Zangerman est le fournisseur officiel des logiciels de la mairie, et la mairie est bien embêtée pour s'en débarrasser. Les enfants, je pense que ça leur passe bien au-dessus de la tête, les adultes aussi d'ailleurs, mais d'où l'intérêt d'un conte qui va essayer d'aborder ce sujet. Je trouve que c'est plutôt bien amené.
Alors, on va pas totalement changer de sujet, c'est pour ça qu'il n'y a pas la sonnette. Quand j'ai envoyé cette suggestion de lecture, Florence Chabanois a voulu parler d'une autre... là, c'est aussi une bande dessinée, où là, il y a beaucoup plus de dessins que de textes, qui s'appelle « Les décodeuses du numérique », qui a été fait donc par le CNRS. Alors, je sais plus en quelle année, je crois que c'était l'an dernier.
Il me semble aussi.
Voilà. Donc, alors, par contre, je sais pas, j'ai vérifié, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore disponibles à la commande en version imprimée. Donc, pourquoi tu voulais parler des décodeuses du numérique, Florence ?
Du coup, un peu comme Ada, la question de la représentation, elle joue beaucoup sur la projection des enfants ou des personnes sur ce qu'ils et elles peuvent devenir. Et comme, de la même façon que mon enfant, en voyant Ada, peut se dire « Ah ben, je peux bricoler et en plus je peux enrichir, enfin faire les produits que j'ai envie, qui satisfassent mes propres besoins », le fait d'avoir un livre ou de lire un livre comme « Les décodeuses », ça permet de voir qu'il y a des femmes qu'on voit pas forcément dans les carrières de recherche scientifique. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà, il est drôle. C'est des vraies personnes qui travaillent actuellement au CNRS. Il y a une diversité, alors pas complète, non, mais quand même assez incroyable en termes d'âge. Même moi, j'étais surprise en me disant « Ah, mais du coup, je connais que des gens de mon âge ou plus jeunes, en fait, dans ma carrière. » Et là, je vois que y a des gens qui sont proches de la retraite, qui ont tous les métiers m'intéressent. J'aurais envie de tout faire. Et aujourd'hui, en France, les mathématiques et les sciences sont enseignées de façon plutôt théorique. Alors que je crois que c'est en Belgique ou en Suisse, mais un pays voisin, les maths ont beaucoup plus d'attrait pour les jeunes filles, parce qu'elles sont présentées comme des maths appliquées. Et la façon dont ces métiers sont présentés là-dedans, c'est juste passionnant. On voit l'intérêt, en quoi ça change la vie des personnes. Il y a aussi des clichés qui sont cassés et que j'avais moi-même intériorisé, comme le fait que la recherche, c'est un travail plutôt solitaire. Voilà, faut pas aimer les gens. Et au contraire, justement, c'est expliqué dedans et raconté par plusieurs personnes que c'est un travail collectif et vraiment qui permet de changer la condition des personnes. Du coup, je le conseille vraiment à tout le monde. Il me semble qu'il est encore en vente à 6 euros.
Alors, je précise que donc Magali, qui est en régie, est surtout libraire, voilà, et elle me confirme effectivement qu'il est à nouveau disponible à 6 euros et que tu en as des exemplaires à ta librairie, Magali ?
Je les ai commandés, je devrais les recevoir dans les jours qui viennent.
D'accord, donc c'est la librairie qui est dans le Paris 11e, c'est à livre ouvert. On mettra les références, donc effectivement, il est disponible. Et je précise que, alors, c'est vrai que moi, je l'avais acheté à l'époque, et la lecture est passionnante. L'illustratrice Léa Castor est vraiment géniale dans ce qu'elle a fait. Et ça nous a permis notamment de découvrir, quand on a voulu faire une émission spéciale qui s'appelle, un format spécial dans Libre à vous, qui s'appelle Parcours Libriste, où on prend une seule invitée, eh bien, c'est tombé au... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sonne, mais bon, comme on est en studio, écoutez, la personne va attendre. Hein. On est en direct plutôt. Ça m'a permis de découvrir Françoise Conil, qui est donc ingénieure en développement logiciel au CNRS. Donc il y a le portrait là-dedans, et donc dans les décodeuses numériques. Et on l'a invité dans le premier Parcours Libris. Donc c'est l'émission 165 dans Libre à vous. Donc vous pourrez écouter sur libreavoue.org/165. Écharpe. Écharpe, Isabelle, est-ce que vous connaissiez?
Ouais, moi je connaissais tout à fait et je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Florence. Et notamment, moi, ce que j'aime bien dans le lien des deux, c'est qu'effectivement, c'est la question sur le collectif que tu évoques. C'est-à-dire, c'est l'un comme l'autre de ces écrits et de ces dessins, etc., de ces ouvrages, pousse sur la question de non, c'est pas un travail de solitaire et on n'a pas besoin d'être en compétition les uns avec les autres, mais au contraire, c'est un travail collectif dans lequel on peut faire ensemble les choses. Et ça, c'est vraiment, c'est assez joyeux.
Alors, on va faire une pause musicale parce qu'en fait, c'est notre intervenant suivant qui sonne. Donc, pour permettre à quelqu'un... Tu vas le chercher directement ? Bon, on va pas faire de pause musicale, alors on va continuer comme ça. Non, mais on est dans la discussion. Ou à moins que vous vouliez faire une pause musicale, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, tout va bien.
Tout va bien. Bon, on va attendre que.
Mais en
que...
direct, vrai direct.
On va attendre que donc que Écharpe. J'ai du mal à l'appeler Écharpe, lui, par contre. C'est son ce pseudo. Aille nous chercher donc Vincent Calame. Donc effectivement, donc on confirme donc que les décodeuses du numérique est toujours disponible en commande auprès du CNRS au prix de 6€. Il y a une douzaine. Et on a reçu aussi dans Libre à vous, excuse-moi, je te le reprends.
Pardon, ouais.
On a reçu une deuxième personne de cette excepté. Alors je cherche, elle est où? Voilà, Sarah Cohen Boulaka, qui est détective public des données biologiques. C'est dans une émission concernée à la reproductibilité en recherche et l'importance des logiciels libres. Donc, on a aussi reçu cette deuxième personne. Je viens juste d'y penser. Et donc, il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une douzaine de portraits. Donc, à 6€. Et puis, donc, Aga et Zangeman. Donc, c'est à 15€, 56 pages. Et c'est effectivement un beau cadeau utile pour les fêtes de fin d'année. Comme l'a dit Écharpe, pour les petites, pour les grandes. Voilà, personne, en fait, parce que ça peut concerner tout le monde. Ça peut peut-être expliquer enfin que les gens comprennent en fait ce qu'on fait dans le logiciel libre. c'est pas gagné. Bonjour Vincent, alors nous sommes en direct, hein, nous sommes pas en pause musicale, mais tu peux t'installer, il n'y a pas de souci. Pour ton sujet. Voilà, assez détendu, voilà. Alors là, on va être un peu moins détendu, parce que le sujet suivant est beaucoup moins drôle. Hein. Alors, tu en as en fait un peu parlé tout à l'heure dans ta chronique, même si c'est pas le sujet direct, enfin c'est pas le thème qu'on va prendre là, mais en fait la thématique était là. Mais l'exemple précis, tu n'en as pas parlé, mais en tout cas, voilà, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc la Quadrature du Net a publié un article récemment autour de la notation des allocataires et des problèmes que ça pose. Alors je crois que là c'est Florence qui avait proposé ou c'est...
Oui, c'est bon.
Ah, pour le coup, là, je me trompe pas, voilà. Alors pourquoi tu nous as proposé cette thématique?
Bah parce que déjà, je trouve que la quadrature du Net fait un super travail et je trouve que c'est important de le mentionner, qu'on est beaucoup de personnes concernées par la CAF. Du coup, c'est quand même quelque chose qui est une institution qui est assez installée et de savoir comment elle traite nos données et prend ses décisions, je pense qu'on devrait tous y intéresser. Tous et toutes. Et aussi, c'est raconté comme une enquête, ce que je trouve intéressant. C'est un peu comme un polar. Je réponds juste à ta question du pourquoi, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Voilà pourquoi. Parce que c'est intéressant.
D'accord. Okay. Et c'est vrai, quand on lit l'article, il y a une enquête. En plus, il y a des demandes de documents administratifs, des refus de la caisse d'allocation familiale, machin, etc. Alors maintenant, le pourquoi, mais alors, maintenant le quoi?
Ah, ok. Alors,
quel est le sujet?
Du coup, il y a un algorithme qui a été mis en place pour détecter les fraudeurs et les fraudeuses de la CAF. Et du coup, ça fait plusieurs fois que la Quadrature essaye d'avoir accès au code source pour voir comment cet algorithme est conçu. Ils ont fini par réussir et apparemment, c'est obligatoire maintenant. Je ne sais pas exactement comment ils se sont débrouillés. Mais ce qu'on voit, du coup, c'est que y a un indice de suspicion qui permet de classifier les personnes. Et on voit les différents facteurs qui rentrent en jeu dans ce modèle. Et un des arguments de la CAF, c'était oui, il y a des informations sur le caractère, les revenus des personnes, mais c'est un critère parmi bien, bien, bien d'autres. Ce qu'on voit dans l'article, c'est que techniquement, c'est pas faux, mais qu'en réalité, il y a des faisceaux de facteurs qui vont finalement dire un peu la même chose et du coup augmenter le poids des revenus dans l'algorithme. Et pour la faire courte, en gros, les personnes qui ont moins de revenus sont des tricheurs et des tricheuses et vont être plus contrôlées. Alors ça, c'est un point déjà qui est assez intéressant. Et l'autre point, c'est le côté... Ah ben mince, j'ai oublié. Alors tac, 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 de ce facteur... Ah oui, ça y est. C'est même la notion de fraude qui est complètement... incroyable, parce que du coup, la fraude, c'est uniquement les trop perçus. Donc, ça peut être complètement non intentionnel, que la CAF, honnêtement, c'est un peu compliqué de comprendre toutes les règles. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait été puni du personnel parce que justement, il aidait les gens à mieux s'en sortir avec l'administration. Et du coup, même ce caractère de fraude dans le modèle est litigieux. Et du coup, ça fait que les personnes qui ont le moins de revenus sont plus contrôlées, alors qu'elles s'en sortent déjà pas, et que du coup, il y a des espèces de double, triple, quadruple peine, typiquement pour les mères célibataires, où il n'y a pas le facteur écrit mère célibataire, mais déjà en regardant le cumul de revenus, le fait qu'on soit à temps partiel ou des choses comme ça, ça fait que finalement, ça veut dire un peu la même chose. Les populations les plus fragiles sont les plus opprimées du coup par le système.
Alors là-dessus, je vais préciser avant de laisser la parole à Écharpe et Isabelle, que justement sur cette notion de trop perçu, préciser d'abord que le code qui a été obtenu, l'algorithme, c'est pas la version actuelle, c'est la version précédente. Et donc la quadrature dans son article dit « La caisse d'allocation familiale ayant refusé de nous communiquer la version la plus récente de son algorithme, nous nous attendons à ce que ses dirigeantes réagissent en avançant qu'elles disposent d'un nouveau modèle plus équitable, entre guillemets. En anticipation, nous tenons à clarifier un point fondamental. Il ne peut exister de modèle de l'algorithme qui ne cible pas les plus défavorisés et plus largement celles et ceux qui s'écartent de la norme définie par ses concepteurs. Comme nous l'expliquions de manière détaillée, si l'algorithme de la CAF a été prôné au nom de la lutte contre la fraude, il a été en réalité conçu pour détecter les indus, les trop-perçus, comme tu le dis. Or, ces trop-perçus ont pour cause principale des erreurs déclaratives involontaires dont toutes les études montrent qu'elles se concentrent principalement sur les personnes aux minima sociaux et de manière plus générale sur les allocataires en difficulté. Donc, de facto, ça va cibler effectivement ces personnes-là. Écharpe, Isabelle, peut-être Isabelle, parce que... Non ?
Bon, alors, bon, je prends la parole. Ouais, moi, il y a un côté que je trouve assez tragicomique, c'est que par ailleurs, on le sait, il y a plein de gens qui ne réclament pas de l'argent qui leur serait dû au nom des différentes règles qui existent. Donc, c'est terrible parce que on va se plaindre des trop données. Mais par ailleurs, bah, il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'adresse fixe, par exemple, qui ont des grosses difficultés à aller obtenir ce que le système prévoit normalement. Donc c'est une usine à gaz qui va vraiment enfoncer les gens plus bas que terre, qui ne peut pas s'améliorer. Pour moi, il y a pas à chercher, hein. Il y a pas d'objectivité ou quoi que ce soit. De toute façon, le système est bien trop complexe. Je ne sais pas si c'est fait de manière consciente, mais il y a même pas besoin que ce soit de manière consciente. Simplement, ils ont rajouté tellement de règles, personne ne peut les connaître. Et je sais que même ceux qui travaillent dans les institutions ne peuvent pas trop les décortiquer parce que ce n'est que à risque pour eux. Si jamais les URSSAF, par exemple, vous expliquent telle ou telle règle, ensuite, il faut qu'ils s'y conforment. Et déjà qu'ils ne les comprennent pas forcément quand ils doivent les implémenter. Hein. J'ai un peu bossé dans les administrations. Alors là, c'est encore une grosse complexité si jamais ils doivent déclarer comment eux, ils les interprètent, c'est mission impossible, il faut attendre les juges, il faut attendre plutôt la branche judiciaire, c'est affreux, ça ne peut pas bien fonctionner, je vois pas comment.
C'est ça, donc là moi je peux partager ce que tu dis là sur les personnes qui sont en fait qui vont utiliser cet algorithme et qui vont utiliser surtout les résultats de ça. On peut pas leur en vouloir entre guillemets, ok, ils sont sur un job où on leur demande de le faire, mais l'intention initiale de cette affaire là, de cette recherche là, elle est quand même éminemment politique, et on peut pas dire que les gens ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est effectivement d'aller attaquer une fois de plus les autres. Parce que on ne parle pas, tu disais, de quelle fraude parle-t-on ? Mais oui, on n'attaque pas les fraudes fiscales, d'accord ? Par ce type de calcul et d'algorithme. On va chercher là où, déjà, les gens sont en difficulté. Là où, déjà, en effet, comme le dit la CADRA, c'est vraiment, majoritairement, on le voit, nous, on attaque des tas de gens qui viennent et qui se sont plantés, qui ont mis une somme qui n'était pas la bonne dans la case, qui n'était pas la bonne somme, et alors, du coup, ils ont des trop perçus, et c'est pas de la fraude. C'est évidemment pas de la fraude. Bon, je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais enfin voilà. De toute façon, toute cette affaire. Enfin, quand je posais la question tout à l'heure, et c'était pas anodin, et effectivement lié. La question de comment est-ce qu'on peut arriver à travailler avec ça si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si on ne sait pas comment c'est calculé, et si on ne peut pas être dans une espèce de transparence. Je sais pas. Je sais pas comment on peut faire ça. Je vois pas.
Petit détail, il me semble aussi qu'il ciblait d'autant plus les gens qui étaient handicapés. Aussi.
Alors, justement, j'allais lire, on est connecté, oui. Charles. Hein. J'étais sur l'article de la quadrature que je vous invite vraiment à lire. Et donc, il est précisé, comble du cynisme, l'algorithme vise délibérément les personnes en situation de handicap. Le fait de bénéficier de l'allocation adulte handicapé tout en travaillant est un des paramètres impactant le plus fortement et à la hausse le score d'une allocataire. Et sur la partie tout à l'heure, tu disais notamment les femmes seules. La quadrature dit toujours, on observe également le ciblage des familles monoparentales, dont 80% sont des femmes. Nos simulations indiquent que ce ciblage se fait indirectement, la CAF ayant peut-être jugé que l'inclusion d'une variable mère célibataire était trop risquée politiquement. En intégrant des variables comme le revenu total du foyer, le nombre de mois en activité cumulé sur un an des responsables du foyer, dont la nature vient mécaniquement défavoriser les foyers ne comprenant pas deux parents. Donc voilà, il y a toute une recherche qui est faite pour effectivement cibler ces familles monoparentales, notamment voilà des femmes.
Comment écraser un peu plus les gens qui sont déjà en difficulté, en précarité ?
Exactement. Ouais, oui.
Oui, c'est une vraie dystopie. Hein. On se croirait dans Brésil. Moi, je voudrais forcer les hommes politiques.
En Brésil, le film de Thierry Gilliam.
Exactement. Voilà. Où vraiment, ça ne fait que s'empirer. Et on est dans une machine administrative horrible. Et je voudrais faire que les hommes politiques qui font les règlements et les lois qui transforment tous nos systèmes dans des dystopies numériques, je voudrais que eux remplissent les dossiers de CAF, remplissent les dossiers de demande, et on verrait ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout et à obtenir à quoi ils ont le droit.
Alors j'ai une petite question, tu dis les hommes politiques, est-ce que si c'était des femmes politiques qui étaient en responsabilité, on aurait la même chose ou pas? C'est une question ouverte, hein.
Mais non, bien sûr que ça, il y a pas de raison que ça change. On est capable d'être incompétent, quoi que soit son genre, quoi que soit sa capacité physique.
T'inquiète. Okay. Non, pardon. Tu voulais réagir ou pas? T'as non, t'es pas obligé. Hein,
t'avais quelque chose tout à l'heure, mais.
Isabelle, voilà, tu vas récupérer.
Oui. Enfin, sauf si je te repère sur un autre. La question, ouais.
Oh, je sais pas si je vais relayer la remarque d'Odile Marie-Odile sur IRC, mais bon, vas-y.
Ok. Non, moi, je voulais dire qu'il y a la question, CAF, et moi, j'aimerais bien savoir de quoi est fait. Alors, la Cadra l'évoque, je crois,
moment. C'est la quadrature du net, hein. Je précise.
Oui, pardon.
Tu dis d'accord.
La quadrature du net l'évoque, mais rapidement, parce que c'est pas que lié à la CAF. Il y a un algorithme qui a été monté comme ça aussi pour la question du logement. Je dis ça parce que donc dans l'émission que je fais par ailleurs un coin quelque part on essaie de réfléchir sur ces questions-là et donc il y a une chose qui est faite identiquement pour savoir quel type de logement on va pouvoir donner aux personnes et sur la question de la fraude de à combien tu es, est-ce que tu es un couple ou pas, est-ce que t'as combien t'as d'enfants, est-ce que tu vas pas vouloir loger des gens, enfin etc. C'est du même ordre et ça je pense que ça sera pas mal j'aimerais bien que ça soit leur enquête suivante en fait.
Alors je précise une remarque de Marie-Odile, pas la deuxième Marie-Odile parce que bon elle précise que ces gens les personnes les plus ciblées n'ont pas d'avocat. Les riches, quand on parlait de fraude fiscale, en ont plusieurs à leur service pour résoudre leurs problèmes. Et puis, c'est pareil, j'ai vu une remarque que j'ai oubliée. Alors, Florence, tu as récupéré ta remarque?
Du coup, j'avais travaillé sur le système antifraude dans une de mes anciennes entreprises.
Et à la centrale.
Oui, exactement. Voilà. Ah oui, parce que t'as entendu le podcast il y a pas longtemps. Et du coup, déjà quand j'ai lu cet article, je me suis dit, alors attends, est-ce qu'on a fait de la merde ou pas nous? Et pourtant on est relativement éclairé. Enfin, on essaye en tout cas. Donc c'est mieux que ne pas essayer, on va dire. Et du coup, je sais pas. En vrai, si on avait des facteurs discriminants. Et du coup, mon ancien moi me disait, mais en même temps, si on rend ça public, le souci c'est que ça peut. Je comprends l'argument de sécurité en disant si on dévoile la mécanique. Même si on avait mis en place des systèmes qui permettraient de montrer pourquoi, enfin, quels étaient les facteurs qui pesaient sur les résultats d'un algorithme, d'un modèle, est-ce que du coup on se met pas à risque? Et du coup, j'ai pas trop la réponse par rapport à ça.
En sécurité, on ne veut pas révéler tout tout de suite à tout le monde. Donc effectivement, d'avoir un peu d'obscurité, ça reste indispensable. C'est comme les secrets, les codes d'entrée. Mmh. On va pas les révéler à tout le monde. Et oui, on est tous biaisés. Ça me paraît inévitable. On est tous un peu racistes. On a tous des idées débiles dans la tête qui circulent, même si il faut qu'on les combatte en permanence. Ça me paraît inévitable qu'ensuite, ce qu'on implémente, ça va suivre un petit peu ses biais. Et il faut se battre contre ça.
C'est là où je pense que dans notre équipe de data scientist, on aurait dû avoir des gens qui étaient
data scientist.
De, je sais même pas comment.
Scientifique de la donnée.
Voilà. Scientifique de la donnée. Merci. Pour moi, ça devrait faire partie du cursus minimum, en fait. De dire attention à la discrimination, au biais qu'on peut avoir pour justement s'en protéger. Parce que si on se dit juste, les gens n'ont pas fait exprès d'être discriminants, je suppose. Et pourtant, Isabelle n'est pas d'accord.
Oui.
Ouais.
Non, c'est vrai.
Et on finit là-dessus.
Moi, je ne peux pas être d'accord sur le fait que ce n'est pas fait exprès. Je ne peux pas y croire deux minutes.
C'est vrai?
Oui.
Il y a de tout. Ce n'est pas incompatible. Ça peut être fait exprès parfois et parfois des accidents. Non? Tu penses que c'est toujours fait exprès?
On peut laisser effectivement ce doute-là planer deux minutes, mais non, je pense qu'il y a une vraie recherche. Enfin, je veux dire, c'est complètement politique. Il y a des recherches pour aller effectivement coincer, contrôler. Pourquoi est-ce que c'est plus certaines populations qui sont contrôlées que d'autres? Enfin,
il y a de la mauvaise foi. Et je pense que par exemple, il y a des gens qui se plaignaient du racisme anti-blanc. Vous connaissez? Je pense que cette mauvaise foi, elle peut être au service de ces biais-là, et que rechercher chez les pauvres des fraudeurs, je pense aussi que ça vient d'une mauvaise foi. Et je pense que la mauvaise foi peut être au service d'un élan politique, d'un côté électoraliste où on veut se faire élire sur cette mauvaise foi parce que ça va correspondre à des mauvaises pensées, quoi. Il y a des courants de pensée humains et on va aller dans ces idées un peu obscures, un peu sales. Et
on va chercher ça les gens là où ils sont pires.
Parfois.
C'est bon pour vous? Parce que le temps avance, même si on a fait la pause musicale. Bon, on va revenir à quelque chose d'un peu moins lourd que ce sujet-là. Et on vous invite à lire évidemment l'enquête de la quadrature du net. On a mis la référence sur le site libreavoue.org ou sur causecommune.fm. Mastodon, Le réseau social de micro-blogage auto-hébergé, libre, décentralisé, dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, dans sa dernière version, a annoncé vouloir limiter le harcèlement sur son réseau avec une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est le principe, ce serait d'afficher des messages d'avertissement pour dissuader certains comportements désagréables. Alors je ne sais pas si ça a déjà été mis en place ou si vous avez déjà eu l'occasion de voir ces messages, mais j'avais envie de demander, alors sauf Isabelle, parce que Isabelle, tu n'es pas sur Mastodon, mais tu auras peut-être un avis sur le sujet, principalement d'ailleurs Florence, parce que Florence, t'es à la fois sur Twitter, sur... Oh, je sais pas si encore, sur Twitter.
Si, je suis encore.
Voilà, mais et donc sur Mastodon, depuis combien de temps t'es sur Mastodon déjà, je me souviens plus.
Depuis un an.
Voilà, donc t'es arrivé dans la période récente. Mm. Par rapport justement à ces questions de harcèlement, quel est ton, et par rapport à la fonctionnalité que propose de rajouter Mastodon, quel est ton avis, ton retour d'expérience?
Bon, ça se tente. Ça se tente. Après, Mastodon, il y a tellement peu de personnes que honnêtement, moi je me suis jamais fait embêter sur Masto. Pour le coup, et je trouve qu'en termes de... J'avais plus de soucis sur Twitter, en gros.
Oui.
Mais après, c'est lié aux effets de masse, voilà. Je pense que c'est bien d'essayer d'éduquer et de renvoyer le feedback, d'inciter les gens à réfléchir avant de faire quelque chose. Après, je pense que c'est comme la pub, à un moment, on va juste cliquer partout et ne plus voir. Donc, faudrait tout le temps mettre du rose, changer plein de couleurs, et à un moment, ça va faire une surcharge. Je pense qu'il peut y avoir quand même une fatigue, mais qu'on ne va plus trop avoir l'effet de ce type de fonctionnalité.
D'accord.
Mais à tester.
Et donc, ça fait un an que tu es sur Mastodon. Est-ce que, par rapport à tes attentes ou par rapport à ton vécu sur Twitter, comment ça se passe, en fait?
Mastodon, j'ai du mal à faire décoller le compte. J'ai l'impression qu'on reste vraiment entre nous. Du coup, c'est très agréable. Parce que tout le monde est d'accord avec les gens avec qui il ou elle parle. Mais du coup, ça vole pas très haut. On va pas faire un reach. On va pas atteindre des populations qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter en termes de... pour quitter l'entre-soi, c'est pas incroyable. Blue Sky, j'aime bien, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Blue Sky marche mieux que...
Alors, précise ce que c'est que Blue Sky.
C'est un autre réseau social qui a été fait par le créateur de Twitter.
Jack Dorsey.
Yes.
Probablement que ça marche. Enfin, moi, j'y suis pas sur Blue Sky, mais c'est sauf erreur de ma part, pour l'instant, Blue Sky, c'est sur invitation.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le public qui est présent sur Blue Sky, c'est pas le public qui est présent sur Twitter. Je pense que le jour où le modèle économique les forcera à ouvrir avec de la pub, etc., ça finira, à mon avis, comme Twitter. C'est qu'une présupposition. Mais en tout cas, actuellement, le fait que ce soit que sur invitation et que, notamment, les journalistes aient une invitation automatique, fait que finalement, on se retrouve avec des gens qui, entre guillemets, sont raisonnables. Peut-être.
C'est vrai.
Tous les journalistes le sont.
Oui, en disant ça, je savais ce que. Non, mais c'est mon intuition, je ne sais pas.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été sur une liste d'attente pendant 6 mois, donc il y a vraiment ce côté, effectivement, un
choix.
Peu.
Voilà. D'accord.
Mais maintenant, il y a beaucoup d'invitations. Enfin, je dois en avoir une dizaine. Je veux dire, ça se libère semaine après semaine, donc ils ont vraiment ouvert les vannes.
Bon, on verra comment ça se passera quand il y aura de plus en plus de monde.
Oui. Ouais. Mais à Twitter, j'aimais bien le système de signalement et je le trouvais assez efficace, en réalité.
D'accord. Okay.
Maintenant, je pense pas que ça marche. Mais il faudrait essayer.
Avant de te laisser réagir, Manu et Charles, si tu veux, Étienne sur le salon nous rappelle que le racisme anti-blanc n'a aucune existence en sociologie. Je te laisse réagir sur Mastodon, pas sur ce sujet-là.
Oui, non, mais d'avoir des petites affichettes au début, oui, bah pourquoi pas, ça fera jamais de mal. Mais c'est comme de dire, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire une bêtise. Bah oui, mais je vais éviter de dire la bêtise dès le départ. Non, là, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont d'architecture. Il faut organiser pour que les endroits où on discute, on puisse limiter, par exemple, les réponses, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que d'être harcelé sur sa propre page par des trolleurs, par des gens qui vous connaissent mais vous les connaissez pas, et ils viennent sur votre lieu d'expression et là ils en rajoutent une couche, et ça c'est ce que Twitter permet encore aujourd'hui, et il me semble, et qu'il faut pouvoir limiter, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire bah non, je fais un commentaire mais je ne veux pas de réponse, ou je permets les réponses que de mon premier cercle. Ça me paraît être un minimum de bienséance, parce que voilà, il y a des connards, il y a des trolls, c'est encore pire que tout, il y a des gens qui sont même
rappelle ce que c'est qu'un troll, s'il te plaît.
Un troll, c'est une
rappelle ce que c'est qu'un connard, s'il te plaît.
Alors c'est une définition impossible parce que elle est infinie. Les trolls, ce sont des animaux qui vous attendent sous les ponts pour quand vous passez, ils vous attaquent. Et en gros, ce sont tous les connards qui aiment bien déclencher un petit peu des émotions fortes en vous insultant ou en vous mettant dans des situations impossibles. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de limites et qui vont faire preuve d'une extrême mauvaise foi. Parce que c'est ça au final. Et dans les trolls, il y a des trolls qui sont parfois rigolos parce que ça peut donner de l'énergie. Donc moi perso, je ne mets pas tout à part, mais c'est par contre ça va très loin, c'est qu'il y a de l'industrialisation, il y a des fermes à trolls, on en a découvert en Russie notamment, qui sont payées pour essayer de mettre en avant des points de vue, pour essayer de changer le discours et la façon dont les gens sont civilisés, pour casser vraiment nos relations et pousser vraiment ce qui se passe aux États-Unis par exemple. Il y a des camps de droite, il y a des camps de gauche, ils se détestent et ils envisagent même une guerre civile, donc ça va très loin, c'est un peu hors de contrôle.
Isabelle, tu voulais réagir sur ce sujet-là ou on change de sujet ?
Non, on peut changer de sujet parce que moi je suis pas très je vais parler effectivement des fausses bonnes nouvelles ou des bonnes fausses nouvelles. Je pourrais parler effectivement des risques sur la propagande, mais moi je suis pas sur les réseaux sociaux donc je suis pas légitime. Hein.
Bah, la légitimité. Tu es la bonne personne.
Je suis pas légitime à en parler parce que je ne sais pas dire pourquoi ça serait bien que Mastodon fasse ceci ou pas. Bah, tu vois.
Tu es la bonne personne. Tu es là. Tu as le droit. Tu devrais.
Donc on va. Il nous reste quelques minutes parce que Vincent écoute patiemment, mais ça.
En public,
C'est en public. Allez, c'est presque notre première émission en public, mais on va changer de sujet. Alors là, c'est les sujets un peu rapides. Ça tombe bien parce qu'en fait, on va être rapide en temps. On va commencer par le premier. Ça va être Écharpe. Tu voulais qu'on nous parlait de Advent of Code 2023. Donc j'ai demandé de nous dire ce que c'est que Advent of Code.
C'est le calendrier de l'avant du code. Et d'accord. Effectivement, c'est un truc un petit peu amusant entre informaticiens, entre programmeurs et programmeuses sur LinuxFR. Mais en fait,
LinuxFR.org.
Exactement. Et donc, ça c'est un fonctionnement où les informaticiens aiment bien essayer de s'entraîner à coder. Et moi, je le fais, mais je le fais pas sur celui-là, je le fais sur d'autres sites. Et donc, un petit peu tous les jours, on code dans différents langages, on s'entraîne, on essaye de suivre des algorithmes. Et là, c'est en public où tous les jours, on vous pose une colle et on vous propose de trouver des solutions dans le langage de notre choix, à la manière dont on le veut. C'est pas hyper formalisé. Donc c'est plutôt fun, hein, c'est plutôt rigolo et moi j'encourage. LinuxFR.org, c'est une communauté sympa.
Une réaction non,
donc c'est très bien.
Donc pareil, on a mis les références sur libravou.org et sur causecommune.fm. Deuxième sujet court, c'était aussi toi qui l'avais proposé, Écharpe, le Fairphone 5, iFixit lui attribue la note de réparabilité de 10 sur 10 et je crois que c'est une première. Alors, c'est quoi le Fairphone, c'est quoi iFixit ?
Alors, moi j'aurais dit iFixit, mais ça revient même et après sur le site web...
Tu connais ma mon
capacité en anglais. Oui, c'est pas grave.
Mais effectivement, c'est iFixit.
Et donc, ça veut dire je le répare. On répare. Et donc, ça va vraiment dans cet esprit de combattre les téléphones qui sont d'un seul montant, qui sont parfois collés, donc on peut rien ouvrir, on peut rien y mettre les mains dedans, et par exemple Apple, ce sont les parangons, les gens qui défendent le fait qu'on ne puisse pas aller réparer, donc c'est énervant, et c'est un mouvement qui va très loin, hein. Même les tracteurs sont touchés aux États-Unis au nom du droit d'auteur, on ne peut pas aller corriger un matériel qu'on a acheté, donc là, enfin, il y a des gens qui sont pris en main, qui ont dit on va essayer de travailler sur l'écologie, on va essayer de s'assurer autant que possible que les matériaux de base soient sourcés depuis des mines où il n'y a pas des enfants qui travaillent par exemple, donc quelque chose d'assez difficile à faire, mais qu'il faut faire, et derrière, on permet aussi de réparer le téléphone, donc Bookie en a un, elle est assez contente et son père aussi, moi je pense acheter la prochaine génération et elle a déjà cassé l'écran, oui je la regarde, oui je te dirai pas combien de fois, mais trop de fois et elle l'a réparé elle-même donc c'est plutôt sympa, elle en était très contente, elle était enchantée de pouvoir recevoir par la poste l'écran d'avoir le petit tournevis qui va avec la chose est bien conçue, bien prévue et on peut changer, il y a des modules, il y a des éléments, on peut enlever la batterie, un truc extraordinaire, incroyable avec les technologies actuelles, et je pense que ça va dans le sens de l'histoire, il faut aller vers là, avoir des matériels qu'on puisse s'approprier, ça va aussi dans le sens du logiciel libre, on n'est pas juste dépendant de choses qu'on nous donne ou qu'on nous vend.
On rappellera qu'évidemment, on a parlé de Fairphone dans Libre à vous avec Agnès Crépet et aussi Gaël Duval, parce qu'il est possible de commander des téléphones préinstallés. Donc c'est sur libreavoue.org, vous faites une recherche sur Fairphone. Je vais juste indiquer la réaction d'une personne responsable de Fairphone suite à cette note de réparabilité. Nous croyons qu'il faut donner aux individus les moyens de réparer et de conserver leurs appareils le plus longtemps possible en réduisant les déchets électroniques, l'utilisation des ressources naturelles et en contribuant à une économie plus circulaire, car comme nous l'avons appris à l'open source expérience dans la track numérique responsable sur les gaz émissions de gaz à effet de serre, c'est 80% à la fabrication de l'appareil et non pas à l'usage. Et je confirme effectivement sur la repérabilité. Alors, iFixit, le site, propose des vidéos qui sont très bien faites pour expliquer comment démonter toutes les vis, enlever par exemple les modules qu'on veut remplacer. On commande le module de remplacement et il arrive, moi je l'ai fait récemment avec le module bas du Fairphone 3, parce que je n'ai pas le 5, je garde mon téléphone.
Très bien, super.
Ouais, mais...
Il y a une chronique j'avais de posé... J aussi sur le sujet, il me semble.
Sur J aussi, oui, effectivement. Non, j'avais posé une question, parce qu'il nous reste très peu de minutes, mais j'allais te poser une question à Antana. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je sais que vous faites du reconditionnement d'ordinateur, oui. Mais je ne me souviens plus si vous faites du reconditionnement de téléphone.
Bah, du coup, la problématique, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à réparer parce qu'on n'a pas, et tous les gens qui viennent avec des Apple, justement, et des i machin, bah, du coup, non.
Ouais.
Mais on aimerait pour le faire plus. La seule chose qu'on arrive à faire pour le moment, c'est de mettre des outils libres sur le.
Des applications libres.
Voilà, c'est ça.
Oui, alors un conseil qu'on peut donner aux gens, en tout cas côté Android, c'est d'installer le magasin d'applications F-Droid.
Absolument.
Donc, qui est un magasin d'applications. Alors, évidemment, Android va vous dire, alerte de sécurité, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Installez comment.
Mais ça marche très bien.
F-Droid. Et après, vous avez, via cette application, ce magasin d'applications, accès à plein d'applications libres.
Tout à fait.
Pour faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est une première étape. Florence, tu voulais réagir là-dessus?
Non, je pense que tout a été dit.
Tout a été dit? Ok. Magali voulait réagir. Allez, vas-y Magali, enfin bouquinette.
Oui, effectivement, si vous voulez installer F-Droid, installez-le depuis le site internet d'F-Droid et non pas depuis le Play Store. Parce que sinon, il y a des trackers dedans, ce serait dommage.
Non, c'est une bonne remarque à laquelle je n'avais pas du tout pensé, effectivement. Donc sur f-droid.org. Alors, on ne va pas aborder un dernier sujet parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps, mais peut-être que je vais vous demander si vous avez une actu à partager ou autre. Laurence, est-ce que tu avais une actu à partager? Une annonce.
Une annonce. Il y a Qtile là, qui a été mis en place, créé côté Iliad, qui est un grand laboratoire pour tout ce qui est modèle de machine learning. Donc à suivre, c'est vraiment le début.
Alors Qtile, c'est K-Y-U-T-A-I. Ouais.
Oui.
Exactement, ok.
Une intelligence artificielle mignonne.
Et attends, juste laisse-moi finir. Iliad, c'est la maison mère de Scaleway.
Oui,
où tu travailles. Voilà.
Où je travaille.
Et Free, c'est la maison mère aussi de Free pour les personnes qui connaissent plus Free que Scaleway. Est-ce que côté Antanac ou côté Manu et Sharp, il y a des annonces?
Non, rien de particulier.
Rien de particulier? Non. Ok, eh bien, écoutez, just in time, super. Nous allons. Ben, je vous remercie de votre participation donc à ce Café Libre. C'est le troisième qu'on fait, donc on va essayer de faire ça une fois par mois. Alors, on est une équipe de tour de 6 personnes, je ne sais pas qui seront les 3 prochaines personnes qui interviendront en janvier. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, puis vous restez là pour quand même la chronique de Vincent. Hein. Et nous allons faire une pause musicale. Alors, je vous rappelle que Cause Commune fait un appel à financement participatif qui se termine dans quelques jours. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à dons. Vous pouvez faire ça tout en écoutant la pause musicale à venir. Alors, c'est la période. Tous les ans, je vous mets cette chanson, mais je la trouve vraiment très bien. Il faut bien écouter les paroles parce que le côté joyeux n'est pas forcément dans les paroles. C'est Joyeux Noël par les Bernardo. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
Cause commune.
Sont éclairés, les sapins décorés, les cadeaux emballés, les bougies allumées. On va pouvoir fêter la fête de l'année. Puissent nos ennemis devenir nos amis. On s'amuse. Je viens d'entrer chez moi, mais il fait toujours froid. On a coupé le gaz, car j'ai pas eu l'occasion de payer mes factures. Ça fait des mois que ça dure. Je n'ai plus de télé, le courant est coupé. Je me suis acheté. acheter une boîte de raviolis et quelques confettis. Des piles dans ma radio qui passe un adagio. C'est de la binoni, c'est vraiment très joli. On s'amuse quand c'est poisson, mes raviolis, mais j'ai bon appétit. Grâce à un réverbère, j'ai un peu de lumière. Et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix. Et sur la bande FM, on passe un requiem. On s'amuse. Il est bientôt minuit, j'allume ma bougie. Dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui. Pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin. Je fais comme si c'était une jolie fiancée. On s'amuse.
Joyeux Noël par les Bernardo, disponible sous licence Art Libre. Nous allons passer à notre sujet suivant.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques Lecture buissonnière, ou comment parler du livre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le chapitre aujourd'hui est intitulé Semence, une histoire politique, partie 4. Bonjour Vincent.
Bonjour Fred. Oui, comme je l'avais annoncé à la fin de ma chronique précédente de novembre, je propose de terminer la recension de l'ouvrage Semence, une histoire politique sur une note plus positive. L'ouvrage nous y invite d'ailleurs, puisque son dernier chapitre s'intitule « Les chemins buissonniers de l'innovation variétale ». Alors, on a vu précédemment, dans les épisodes précédents, que la liberté fondamentale des paysans de semer d'une année sur l'autre leurs propres semences s'est vue réduite au cours des décennies, d'une part par les orientations productivistes prises par le catalogue des variétés cultivées mises en place dans l'immédiate après-guerre, et d'autre part par la pression des industriels pour l'application des régimes de la propriété intellectuelle sur les semences, pression démultipliée avec l'apparition des organismes génétiquement modifiés dans les années 1980. Cependant, cette double pression n'a heureusement pas été sans réaction. D'une part, une petite minorité de chercheurs a continué d'explorer d'autres voies que l'adaptation des semences au modèle productiviste, au prix, il faut le dire, d'une marginalisation certaine dans le monde de la recherche. Et d'autre part, une petite minorité de paysans et de paysannes ont participé à un mouvement qui était balbutiant après-guerre, que nous connaissons bien maintenant, l'agriculture biologique.
Alors, au fond, l'agriculture biologique, c'est un peu l'agriculture d'avant la modernisation.
Alors, oui et non. Il y a bien sûr tout un aspect conservatoire dans l'agriculture biologique, mais elle est aussi friande d'innovation, en particulier d'innovation variétale. Simplement, elle ne cherche pas la même innovation que celle imposée par l'agriculture industrielle. Dans le deuxième épisode de ma chronique, j'avais cité l'exemple donné par l'ouvrage la large diffusion des fungicides dans les années 70 qui avait fait disparaître comme critère d'inscription au catalogue la résistance aux pathogènes. Or, cette résistance reste évidemment un critère important pour l'agriculture biologique qui n'utilise pas ce type d'intrants. Une poignée de chercheurs a continué de travailler sur des plaies résistants appelés brais rustiques, mais il leur a fallu un combat de 20 ans pour qu'ils soient inscrits au catalogue des variétés cultivées. En fait, l'agriculture biologique a un point commun avec le logiciel libre, c'est qu'elle adore la diversité. Dans le monde du livre, nous multiplions les distributions GNU Linux, les bibliothèques de code, les logiciels qui remplissent des fonctions analogues mais qui sont différents quand même, tout simplement parce qu'on aime ça, parce qu'on pense qu'il n'y a jamais de solution unique et que c'est notre droit de réinventer la roue si ça nous chante. Dans l'agriculture biologique, la sélection variétale ne doit pas aboutir à un produit standardisé. Elle doit être adaptée au terroir, au tic d'exploitation agricole, répondre à d'autres critères que le rendement comme la valeur gustative, etc. Alors, il est à noter que cette approche n'est pas propre à l'agriculture biologique. S'il y a un produit où ce discours sur les terroirs est devenu incontournable, c'est bien le vin, en particulier en France avec les AOC, les appellations d'origine contrôlée. Rares sont les étiquettes de vin où on ne parlerait que du cépage sans évoquer le sol ou le climat. Et ce phénomène de valorisation du terroir déborde largement le monde du vin. Les AOC se multiplient, comme le pilon d'Espelette ou comme l'exemple du haricot Tarbet, décrit par les auteurs de l'ouvrage et qui est une sélection récente qui rencontre un franc succès. Or, il se trouve que les AOC ne sont pas soumises aux critères QT catalogue. C'est donc un autre axe de résistance à l'uniformisation qui est tout à fait dans l'air du temps. Alors, ceci nous permet d'introduire le concept de biodiversité cultivée qui repose sur l'idée que la diversité n'est pas statique, comme c'est le cas avec les banques de semences. Elle est dynamique et se vit dans les champs récolte après récolte. D'ailleurs, en conclusion, les auteurs estiment que l'avenir de la recherche publique passe par la recherche participative qui implique les différents acteurs de la filière. Avec l'actualité brûlante, si l'on ose dire, du changement climatique, la sélection des semences les plus adaptées au territoire et limitant au mieux les intrants est un chantier de la plus haute importance.
Alors Vincent, est-ce que tu veux préciser quels sont les acteurs et actrices de cette filière ?
Alors en fait, je vais en évoquer qu'un seul, c'est le réseau Semences Paysannes. Comme son nom l'indique, c'est un réseau éveillé sur son site, donc semencespaysannes.org au pluriel et tout attaché, la diversité des membres. Cela va des organisations nationales, comme la Confédération Paysanne, à des artisans semenciers locaux. Le réseau Semences Paysannes, c'est un peu l'équivalent de l'April dans les semences. Et tout comme à l'April, l'aspect suivi institutionnel et veille juridique est très important, car le cadre juridique bouge tout le temps, en particulier au niveau européen. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu dans le journal que, je cite le titre, les 27 ne s'entendent pas sur les conditions d'une dérégulation des nouveaux OGM. La propriété intellectuelle est en effet de retour avec les NGT, les nouvelles techniques génomiques. Et oui, les combats ne sont jamais gagnés définitivement. Quand ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. Bon, pour en savoir plus, je ne peux que vous inviter à explorer le site du réseau Semences Paysannes. Voilà, je rappelle que l'ouvrage Semences est une histoire politique édité par les éditions Charles-Léopold Meyer au CLM, était en libre téléchargement sur le site de l'éditeur. Et pour finir, comme nous sommes à l'approche des fêtes et vous êtes en recherche de cadeaux, je vous signale deux ouvrages éclairants sur le processus d'industrialisation de l'agriculture. Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne alimentaire par l'atelier paysan édité au Seuil, est maintenant disponible en poche. Il propose une belle rétrospective sur la marche forcée de l'industrialisation et son effet sur le monde paysan. Il termine sur un bon programme pour l'installation d'un million de paysannes et de paysans en France. Et deuxième ouvrage, Silence dans les champs aux éditions Artaud, une enquête du journaliste Nicolas Legendre, tout à fait glaçante sur le système agro-industriel breton, où l'on voit qu'il ne s'agit pas seulement de l'affrontement entre deux modèles, mais bien de la mise en place de pratiques claniques, voire carrément mafieuses. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne lecture et de bonnes fêtes à toutes et à tous.
Alors merci Vincent, j'ai juste précisé, le club des 27, c'est les 27 pays de l'Union
oui.
Européenne. C'est pas le club des 27, des rockeurs et des rockeuses qui sont mortes à 27 ans.
Non, tout
okay.
À fait.
Nous sommes bien d'accord, ok. Bah écoute, merci Vincent, donc je pense qu'en janvier on te retrouvera avec une nouvelle lecture d'un nouvel ouvrage sans doute.
Exactement.
Bon bah c'est cool. Eh bien écoute, bonne fin de journée et belle fête de fin d'année également. Hein. Bah l'émission va bientôt se terminer, on va terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces, je vais vous en faire une seule, en fait. L'install party, tout à l'heure, comme Vincent a parlé des systèmes d'exploitation GNU Linux. Donc, une install party, une fête d'installation GNU Linux à Marseille, samedi 16 décembre 2023, de 14h à 19h. Et puis aussi, si, cause commune, quand même. Début janvier, vous êtes invité pour une rencontre, le 5 janvier 2024, la rencontre mensuelle au studio de cause commune à partir de 19h30, donc au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est une soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois. Donc la prochaine, ce sera le vendredi 5 janvier 2024. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site de l'agenda du libre codé par Echarpe, agendadulibre.org, tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission donc se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Florence Chabanois, Emmanuel Charpentier, dit Écharpe, Vincent Calam, aux manettes de la régie aujourd'hui, Magali Garnero, dite Bouquinette. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, bénévole à l'April, et Olivier Grieco. Vous retrouverez sur le site web libreavous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Je vous rappelle le site web causecommune.fm. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 19 décembre 2023 à 15h30. Ce sera la dernière de l'année. Notre sujet principal portera sur nos amis de Framasoft. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 19 décembre. Et d'ici là, portez-vous bien.